Mais en réalité, si vous voulez, c'est une caricature de l'universel, de l'universalité. En fait, les hommes sont les hommes. Il n'y a pas l'homme, il y a les hommes. J'ai beaucoup appris cela dans une philosophie d'un philosophe qui était un petit peu antisémite. En tout cas, pas lui peut-être, mais en tout cas ses disciples. Je ne sais pas si vous avez connu le mouvement personnaliste d'Emmanuel Mounier, dont la revue, c'était la revue Esprit. Bon, dans la revue Esprit, c'était le cénacle d'Emmanuel Mounier, il y avait beaucoup de chrétiens antisémites. Mais Emmanuel Mounier, je ne sais pas si je vous parle de l'inconnu, là, mais Emmanuel Mounier, vu que c'est un grand philosophe, eh bien, n'était pas forcément antisémite. Alors, il a réussi en langage philosophique à exprimer cela. Le personnalisme, ça veut dire chaque personne est ce qu'elle est. Il y a un personnalisme des nations. Vous savez qu'il n'y a pas de cercle d'études en France qui se réunit sur la question « qu'est-ce qu'être français ?» Dans toutes les communautés juives, il y a eu des cercles d'études « qu'est-ce qu'être juif ?» Vous avez remarqué ça ? Parce que ce n'est pas du tout un mystère d'être français. On est français. Et puis, c'est un mystère pour les non-français. Mais ça ne s'explique pas, ça ne se débat pas, ça se décrit pas, c'est. Okay? Chaque manière d'être homme est ce qu'elle est. Et on a beau discuter, est-ce qu'un Tunisien peut être français ? C'est un problème très particulier, folklorique. Bien sûr, s'il est français. Et qu'est-ce que c'est être français ? Demandez au Tunisien, vous explique. Ou bien, bon, j'aurais pu dire algérien, auvergnat, corse, tout ce que vous voudrez. Il y a un mystère, qu'est-ce qu'être juif ? Parce qu'un juif peut être, je dis bien juif, je n'ai pas dit hébreu, encore. Parce qu'un juif peut être n'importe quelle autre manière d'être homme. C'est le cas particulier du cosmopolitisme juif. Mais on arrivera à l'universel hébreu tout à l'heure. Alors vous voyez, il y a une fatalité de l'échec de l'universalisme chez les nations, chez l'égoïsme. Ça ne signifie pas, encore une fois, que les porteurs de ce rêve, de cet idéal, n'étaient pas authentiquement ce que nous appelons en hébreu des chassidés ou mot à olam. C'est clair ? Donc, eh bien, pourquoi je vous ai parlé de tout ça ?
Yosef qui fait la charnière.
Non, non, mais d'où je suis sorti pour parler de cela ?
La rivalité entre l'identité de Joseph et de Judith.
Ah, très bien. Alors, dans les... L'identité... d'Israël, il y a une première dimension de la vocation Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh de se mettre au service de la civilisation dominante du temps. La charnière avec son problème est très simple. À tour de rôle, chaque nation va devenir la figure de proue de cette recherche de l'universel humain, c'est elle qui fonde l'Empire. Et alors il y a une tendance messianique d'Israël de se mettre au service de cette civilisation dominante pour la cachériser, pour la sanctifier. C'est ce qu'a fait, ce qu'a voulu faire, ce qu'a rêvé et qu'a rêvé de faire Joseph en Égypte. Et c'est le modèle de la vocation messianique de type diaspora. Être au service de la civilisation du temps, celle qui est occupée à faire l'Empire en voulant faire l'universel humain. Est-ce que c'est clair ? Alors le récit de cette descente de Jacob s'installant dans la civilisation du temps qui est l'Égypte, et le levier, le véhicule de cela, c'est la capacité Joseph de faire cela. Ça, c'est la dimension Jacob du peuple d'Israël. Dès qu'il s'agit de Jacob, c'est normal que Jacob se sente chez lui en exil. Et alors, regardez bien à quel point c'est notre carte d'identité historique qui nous est donnée là. Joseph seul est capable d'être dans l'Égypte. Ça, on apprend dans la parashat Shemot. Ve Yosef haya ben Mitzrayim. Joseph seul était capable d'être dans l'Égypte de rester hébreu. Jacob, lui, doit s'installer dans le ghetto de Goshen. Parce que si cette dimension du peuple juif au service de la nation étrangère s'installe au cœur de la nation étrangère, il s'assimile. C'est le problème d'assimilation. C'est ce qui est arrivé aux Hébreux en Égypte. S'ils sont dans l'Égypte, ils s'assimilent. Joseph seul est le cas particulier. Ça sera mis en évidence, on étudiera la semaine prochaine, mais si vous voulez, on peut tirer le livre. Rashi cite un midrash qui le met en évidence. Pourquoi le début du livre de l'Exode, en rappelant la descente des enfants de Jacob en Égypte, a un verset exceptionnel pour Joseph, « Yosef haya b'Mitzrayim ». Et Rashi cite le midrash. Ce Joseph, qui a été vendu du pays de Canaan comme esclave en Égypte, lui, est devenu à la tête du palais du Pharaon et est resté tzaddik. Yosef HaTzadik, c'est le seul qui peut rester tzadik dans l'Égypte. Les autres, pour rester Israël, ils sont au service de l'Égypte. C'est les bergers des troupeaux des Égyptiens. Vous vous rappelez des péripéties du récit entre Joseph et le pharaon. Qu'est-ce que font tes frères ? Bergers, j'en ai besoin, installez. Oui, c'est ce qui se passe. Quand les Juifs arrivent, de quoi vous occupez ? Nous sommes des médiateurs. Ah bon, vous êtes des intermédiaires ? D'accord, on a besoin de vous. Vous avez compris le bol. Nous sommes les médiateurs des valeurs. Bon, et comment ça se traduit ? Intermédiaire à la banque. Avec le même vocabulaire. Sanctions, obligations, valeurs, la signature est bonne, tout. C'est la même chose. C'est dans la réalité de l'existence, l'idéal du médiateur. C'est clair ce que je dis. Au point qu'il y a même des thèses, c'est surtout des sociologues marxistes qui ont fait des thèses, sur le peuple juif, qui est une religion classe, la classe des médiateurs, des intermédiaires, c'est moi qui dis médiateurs. Il y avait une thèse en Trotsky qui s'appelait par hasard, mais c'était son nom de famille, Léon, mais le prénom, je ne sais plus.
Abraham.
Le prénom, ah, c'était pas Askenazi, hein.
Abraham.
C'était Abraham. Ouais, je pensais à ce livre-là. Bon, je reviens au sujet. Vous voyez que la communauté juive, au service de la civilisation extérieure, a le même problème qu'il nous a raconté des enfants de Jacob en Égypte. Lorsque la dimension Israël s'installe dans l'exil, elle s'appelle Jacob. Et c'est elle s'installe, et c'est fini. Elle a son vocabulaire messianique d'espérance, mais ça reste un vocabulaire messianique d'espérance. Il faut que Judas reprenne en relais pour que ça se concrétise. Judas, c'est la sortie d'Égypte. Joseph, c'est la descente en Égypte. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Vous voyez, après, je vais vous parler de la dimension Judas. Et de Judas. Oui. Mais surtout, vous me rappellerez le verset de psaume que je cite habituellement là, pour montrer la charnière. Tant que c'est le temps de l'exil, c'est Joseph, Israël. Dès que le temps de la fin de l'exil arrive, parce que cette tentative a échoué, et nous n'avons aucune exception où elle est réussie. Aucun Joseph de l'histoire du monde n'a jamais réussi à cachériser la civilisation du temps. Les empires ont pris fin dans l'éclatement et les catastrophes. Jamais Israël n'a réussi à sauver l'empire. Oui, vous êtes étonné par mon vocabulaire, mais on pourrait faire toute une fresque de cela. Les Juifs comme sauveurs de l'Empire. Mais c'est ça la vocation messianique de la diaspora. On essaye de sauver l'impérialisme des goïdes. Lorsque Joseph va diagnostiquer que c'est un échec, il leur dit, attention, le temps va arriver, Dieu vous fera signe, et dès qu'il vous fera signe, vous sortirez, vous emporterez ma momie. Parce que sa momie risquerait d'être idole de l'Égypte. Le passé glorieux de Joseph traversant l'Égypte. Chaque fois qu'un Joseph traverse une Égypte, il y a un mausolée quelque part. Des fois, il y a même un sépulcre vide. Bon, en tout cas, pour revenir, celui-là, c'était un fils de Joseph. Mais c'est la même matara, c'est le même objectif. Enfin, pour revenir au sujet, oui, dès que la communauté juive, qui est Israël de l'exil, s'installe au service d'une civilisation, il y a tout de suite la différence. Joseph, qui est à l'Élysée, et les Juifs à la rue pavée. C'est-à-dire Goshen et le palais du pharaon. Vous avez remarqué ça, okay? Bon, ce Joseph, ça peut être, suivant les régimes, soit le ministre des Finances, soit le conseiller du ministre des Finances. En général, il s'occupe de l'économie, de la civilisation. Vous avez remarqué ça. C'est tellement simple que ça donne le vertige. C'est une histoire simple qui se fait depuis l'origine, et elle recommence, et puis on n'arrive pas à s'en rappeler, à la comprendre et à savoir comment réagir, mais c'est la même histoire. Alors donc, il ne faut pas s'étonner. Dès qu'Israël redevient Jacob, il est l'homme de l'exil, il s'installe. Il y a un verset, vous verrez à la fin de la paracha de Vaïkri, que nous citons dans la Gada de Pessah, lorsque le dernier verset montre les enfants d'Israël prospérer en Égypte, dans tous les termes de la prospérité. Alors la Gada dit Melamed, Sheayu, Metsuyanim, Sham. Ils étaient très bien là-bas, Metsuyan. Je me rappelle, il y avait un restaurant à Paris, il n'y a pas encore longtemps, un restaurant kasher chinois, Lubavitch d'ailleurs, Metsuyan. Bon, il s'est transformé en gargote israélienne, mais c'était typique, n'est-ce pas? Mais la met, shayu, metsuyanim, shan. Le pshat, ça veut dire metsuyan, ça veut dire je me sens très bien. Jacob est chez lui, chez Joseph. Donc, pas de mystère. Attendez, le problème a été posé par un grand commentateur qui est le Or HaHaim. Le Or HaHaim va poser le problème pour les enfants de Jacob lorsqu'ils ont ramené le corps de Jacob à la caverne de Marpella, pourquoi ils ne sont pas restés en Israël, pourquoi ils sont redescendus. Ça, on étudiera ce commentaire au début de la paracha de Shemot. C'est là que le roi Haïm dévoile que c'est ça la catastrophe qui a fait qu'on a été que 70 et pas 80. Si la famille Jacob a été 80, alors l'histoire d'Israël aurait été tout autre. Elle aurait été une histoire de messianité dans la splendeur et dans la gloire. C'était un thème très peu connu, on l'étudiera en détail. Je vais vous dire quelle est la charnière de cet enseignement. Lorsque Joseph, je cite un midrash très important que Rachid a cité, mais qu'on esquive parce qu'il pose un problème difficile. Lorsque Joseph, qui est cette tendance d'Israël, a rêvé d'être au service de la civilisation extérieure pour la sauver. Je plaide le dossier de Joseph. Moi, je fais partie du judaïsme de Judas. C'est un hasard que je m'appelle Judas. En plus, c'est vrai. Mais c'est un hasard, c'est une coïncidence. J'aurais pu m'appeler Joseph, hein, mais je ne m'appelle pas Joseph, il n'y a pas de coïncidence. Bon, je plaisante. Je ne plaisante pas, non, en fait. C'est pire. J'essaie de vous montrer quel est le dossier de Joseph. Et le dossier de Joseph est plaidable. Parce que ce n'est pas où Judas a raison ou Joseph a tort. Ce n'est pas ça, les deux ont raison. Ça dépend dans quel temps on est. Si on est dans le temps de Joseph, c'est Joseph qui a raison. Si on est dans le temps de Judas, c'est Judas qui a raison. Bon, le problème contemporain, c'est très clair. On est dans un temps charnière où tout le monde se pose la question. Quel temps sommes-nous? Le temps de Judas ou le temps de Joseph? Si c'est le temps de Joseph, eh bien, il faut s'installer en diaspora. Si c'est le temps de Judas, il faut s'installer dans l'Istachim. Il n'y a pas de pshara. C'est clair. Il faut s'installer à Shrem. C'est Joseph lui-même qui le dit. D'ailleurs, vous savez qu'on a rentré un Sefer Torah, d'accord, dans les parachutes de Joseph. Ils ont fait exprès, je dois vous dire. Mais maintenant, pour revenir au sujet, c'est cet élan messianique, il faut sauver l'humanité que Dieu a créée. Or, la révélation de Dieu s'est faite au Père d'Israël pour que les fils soient au service du salut messianique de l'humanité. C'est à ce niveau-là qu'il faut penser l'inconscient juif. C'est ça l'inconscient juif. Et par conséquent, Joseph rêve cela. Là où c'est déjà la nuit, il faut être les étoiles. Vous vous rappelez derrière Joseph? Là où le blé pousse, c'est là-bas qu'il faut aller faire les gerbes. Et pas ailleurs. Et alors, c'est cette histoire qu'il nous a racontée. Et quand on est au temps de Joseph, eh bien, Jacob se connaît comme Jacob et s'installe chez Joseph. Il n'y a pas de mystère. Mais il y a un danger. C'est la femme de Potiphar. Ça, c'est un thème qu'on n'a pas étudié cette année, que vous avez lu dans les textes précédents. La femme de Potiphar a voulu s'annexer la force de Joseph, l'Égypte, dans la figure de la femme de Potiphar, a voulu s'annexer la force de Joseph, comme d'ailleurs, on verra, et Rachid met l'accent chaque fois, la tendance de l'Égypte, c'était de s'annexer l'identité d'Israël pour féconder l'Égypte. Et c'est ce que reprochera Judas à Joseph lorsqu'il plaide le dossier d'Israël contre cette usurpation d'identité que l'Égypte veut faire. Tu veux prendre Benjamin comme l'ancêtre du pharaon du temps d'Abraham a voulu prendre Sarah. C'est-à-dire, ce qui est la dernière chance des engendrements en Israël, l'Égypte veut se l'approprier pour féconder l'Égypte. Alors l'Égypte devenue, comment on dit quand on n'a plus d'enfants? Non, quand on n'a plus d'enfants, pas quand on ne peut pas avoir d'enfants. Devenue Hariri, comme on dit ça en français. Hein? Non, ça c'est trop précis. Bon, l'Égypte devenue, disons, stérile, mais enfin, vous savez qu'une des définitions du colonialisme, plus que de l'impérialisme même, c'est continuer avec les enfants des autres. C'est ça l'impérialisme, finalement. C'est-à-dire continuer avec les enfants des autres. Et nous avons d'ailleurs des phénomènes d'impérialisme intérieurs à la société juive. Vous avez des communautés qui ne continuent qu'avec les enfants des autres, parce qu'elles ne continuent plus avec leurs propres enfants. Je ne mets pas les points sur les i. Bon. Et je reviens en tout cas au sujet. Judas va reprocher à Joseph, tu veux faire avec Benjamin ce qu'a fait le pharaon avec Sarah, c'est-à-dire s'approprier. Et ce pharaon du temps de Moïse, qui va tuer les garçons mais garder les filles, parce que c'est les filles qui engendrent, enfin, ce sont les filles qui enfantent, les enfants, les garçons engendrent. La matrice d'engendrement, il veut se l'approprier. Et ça, c'est la femme de Potiphar. On apprend que le mari de la femme de Potiphar est eunuque. Vous vous rappelez de ça? Et la femme de Potiphar voudrait être fécondée par Joseph, parce que son mari, l'Égyptien, ne peut plus la féconder. Ça se lit à livre ouvert, ce qui se passe là. La femme de Potiphar veut Joseph. Et qu'est-ce que Joseph lui laisse? Le déguisement égyptien de Joseph. Imaginez la frustration de la femme de Potiphar. Si elle le fait envoyer au camp de concentration, c'est pas pour le punir d'avoir voulu séduire la femme de Potiphar. C'est pour le punir de ne pas s'être laissé séduire par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit à son mari, je le veux, il ne veut pas, venge-moi. C'est ça qui se passe, lisez bien le texte. C'est l'inverse. Okay, voilà, vous voyez, Joseph arrivant dans une civilisation, je suis théophore. Vous savez ce que ça veut dire théophore? Porteur de l'idée de Dieu. Ah bon, ben tu vas nous sauver. Je vais vous sauver, moi je suis athée. Mais la frustration. Okay. Regardez ce qui se passe dans le dialogue entre l'intelligentsia juive et par exemple la France. La France attend un message de salut du peuple de Dieu. Et qu'est-ce que les intellectuels du peuple de Dieu enseignent aux Français? L'athéisme juif. Vous avez remarqué ça? Frustration de la droite française, ça lui fait de la peine. Faute d'orthographe, c'est Le Pen, c'est pas la peine. En fait. Non, je schématise, si vous voulez, un mécanisme qui n'a jamais eu d'exception. Voilà, Joseph arrive pour sauver l'Égypte. Bon, tu vas me faire des enfants, jamais de la vie. Et alors, dans la fosse. Vous voyez comment ça marche? Et alors, c'est clair? D'ailleurs, il y a un midrash, que si Drachi, qui va vous montrer à quel point c'est ça qui se passe. Joseph a failli succomber. Je cite toujours la figure de Néfertiti. Imaginez, Néfertiti, on ne peut pas résister, Néfertiti. Alors Joseph a failli succomber. Et puis, à ce moment-là, lui apparaît la figure de son père. Alors, dit le midrash, alors, les psychologues expliquent tout de suite. Inhibition, bon, c'est clair. Mais qu'est-ce qui se passe, dit Rachi? Il s'est aperçu, il s'est rendu compte que ses enfants risqueraient de ne plus ressembler à son père. Alors il s'est enfui. C'est le drame d'un judaïsme qui s'installe au service des nations, qui au moment où il risque de voir, je vais me disparaître, être assimilé, il se reprend, et alors frustration de la nation en question, antisémitisme. Voilà, je vous ai raconté l'histoire. Et il faut savoir que malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, et il n'y a jamais eu d'exception. Il n'y a jamais eu d'exception. Alors le Midrash, j'y arrive, dit ceci. Quand la femme de Potiphar a voulu s'emparer de Joseph, Joseph a perdu 10 tribus par 10 gouttes de sperme qui sont tombées de ses 10 doigts. 10 tribus ont été perdues. Et une perte d'énergie d'Israël dans cette aventure, voilà ce que Joseph a laissé. Joseph aurait pu être le père de 12 tribus, il ne lui en est resté que 2. Ce qui fait qu'Israël, au lieu d'être à l'indice 80, a été à l'indice 70. C'est un thème de Kabbalah, je voulais vous le signaler pour vous montrer que, justement, le Or Haïm, qui est le grand commentateur Alpia Kabbalah de la Torah, vous savez, le contemporain du Baal Shem Tov, qui a expliqué cela, à relier à ta question, c'est un Israël galutique qui apparaît en ce temps-là et qui s'installe en tant qu'Israël galutique. Un Israël où il y aurait eu les deux forces messianiques, l'autre force aurait déjà repris le relais au moment où ils ont ramené le cercueil de Jacob et il serait resté en Canaan. Alors, je vous citerai la semaine prochaine tous les commentaires que vous avez d'ailleurs dans vos textes qui montrent que le plaidoyer vraiment n'est pas à la hauteur de l'événement. On a laissé femme et enfant, on a laissé les troupeaux, il faut aller retourner les rechercher. Alors, on est allé retourner les rechercher, mais on est resté là où on est. C'est Vaït Mahama, on a tardé. Vous voyez, c'est la sortie d'Égypte aurait pu se faire tout de suite. Et puis, elle ne s'est pas faite, on s'est installé. Voilà, ça c'est pour répondre à ta question. Ok, on va voir quand même chaque fois, il y a eu de l'eau. Voilà, c'est la motivation de la réponse à ta question. Il y a une tendance à s'installer dans l'Égypte. Non, c'est toi qui ajoute ça. Le début est exact. Effectivement, c'est...
En tout cas, après les 5 ans, il devait
être... Non, effectivement, ce que tu as cité, c'est dans la fin de la parasha de Vaïgash. Et arrivé à Beersheba, il a demandé la permission de quitter le pays parce qu'il savait que Dieu avait interdit à Isaac. C'est ça que tu cites. Okay? Et Dieu lui donne le OK pour la descente en exil. Et je vais vous dire le verset, parce que c'est exactement ça le problème. Ce que j'essaie d'expliquer, mais je vois qu'il faut que j'y revienne. C'est qu'il y a cette dimension. Vous savez, je ne sais pas quelle notion utiliser, la spécialisation du travail. Il y a, si vous voulez, dans une armée, il y a des corps différents, spécialisés. Alors, quand l'armée, c'est l'aviation, les responsables de l'aviation ne pensent qu'aviation, ils ne pensent plus blindés ou le train. Le train, c'est quoi? Le ravitaillement. Okay. Et ainsi de suite. Les chefs de l'infanterie ne pensent que l'infanterie et ne pensent plus l'aviation ou les blindés. Okay. C'est ce qui arrive. Lorsqu'Israël est engagé dans la dimension Joseph, Israël devient hermétique à la dimension Judas. Israël redevient Jacob. Et Jacob, c'est l'exil. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Alors Dieu lui donne le feu vert pour l'exil, alors il devient Kulo-exil. Et j'essaie d'en faire la phénoménologie dans l'histoire de la société d'Israël. En vous parlant comme modèle de ces Juifs de l'exil qui sincèrement disent tous les jours « Ramène-nous à Sion ». Mais dont l'engagement, c'est d'être au service de la civilisation du temps à l'extérieur. Cette espèce de paradoxe que les Juifs n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils sont dans le bain. Mais je vous garantis, parce que ça les concerne, je vous garantis que les non-Juifs assistent à ça, interloqués. Qu'est-ce que c'est que ce peuple qui fait le contraire de son souhait le plus cher? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Hein. J'ai souvent discuté avec des sociologues non-juifs. Je vous garantis que la plupart du temps, ce qu'ils nous disent le plus naïvement possible, on n'arrive pas à vous comprendre. C'est la contradiction absolue. Et c'est la contradiction absolue. Alors, le texte est très clair. Quand il emploie le terme d'Israël pour parler d'Israël, c'est Jacob débarrassé de l'exil revenant en Israël. Ça, c'est quand il s'est enfui de chez Laban et qu'il revient au pays, il reçoit le nom d'Israël. Mais Israël, descendant en Égypte, s'il devient Jacob, et il est Jacob, et que Jacob. Vous avez un verset, mais je vais tout de suite te donner la fin du verset qu'il faut. Quand Dieu dit à Jacob, je descendrai avec toi et je remonterai avec toi. Et donc la question est, pourquoi Jacob a obligé Dieu à rester en bas? Puisque Dieu lui a dit, je descends avec toi, je remonte avec toi. C'est-à-dire qu'il n'y a que si tu remontes que je remonte. Et Jacob ne remonte pas. Bon, vous avez compris. Mais Jacob, c'est Jacob. J'essaie de montrer la difficulté d'être de ce peuple qui doit être à la fois Israël et Jacob. Alors, vous avez sûrement rencontré des rabbins qui sont persuadés, durs comme fer, que ces juifs qui ont décidé de venir en Israël sont des hérétiques, sont des traîtres, qu'ils sont, des renégats. Okay. Moi, je n'ai pas dit que les juifs qui restent en diaspora sont des renégats. Ce que je dis, c'est qu'ils sont préhistoriques et ils ne s'en rendent pas compte. Okay. Mais dès qu'ils s'en rendent compte, eh bien, ils viennent. C'est pas plus simple que ça. Okay. Je ne sais pas si c'est clair. Et alors, vous avez certainement rencontré de ces rabbins de diaspora qui fonctionnent comme ce Jacob. Jamais de la vie, ne parle pas de quitter l'exil, on n'a pas le droit. C'est ça être juif, c'est être dans l'exil. Alors, il y a tout un monde de superstitions qui se greffe là-dessus. Tu vas faire de la peine au Messie, puisqu'il n'est pas encore là. Quoi, tu vas aller avant lui à Jérusalem? Mais toute une espèce de fantasme qui se greffe là-dessus avec une piété considérable, ingénue et minutieuse. Mais c'est ça ce que tu désignes dans le problème. Et alors, justement, vous avez au début de ce fameux passage où Jacob veut prophétiser la fin de l'exil à ses enfants. Vous voyez, je vous donne le verset. Hein, je vais vous donner tout de suite le verset. Et où Rachid dit, il a voulu prophétiser la fin de l'exil. Et la prophétie l'a quitté. C'est au chapitre 49. Au chapitre 49, vous prendrez Rachi sur le verset 1. On va lire le verset 1 du chapitre 49, comme on a lu un verset. Et après, je finis sur le... Mais il est déjà 8 heures. Moins quart. C'est ça?
Oui.
Dans 5 minutes, on arrête. Regardez. Vaïkra, Yaakov el Banav. Et Jacob appela ses fils. Vaïomer et il dit. Et Asefou vaïgid alachem. Groupez-vous, rassemblez-vous. Et je vous raconterai, et je vous dévoilerai, et ta chérie créerai, Acharit HaYamim, de ce qui vous adviendra à la fin des jours. Et Acharit HaYamim, c'est toujours à la fin des jours de l'exil. Rashi, en bas, Bikesh, les galot et taquets, il a voulu révéler la date de la fin de l'exil. C'est moi qui ajoute la date. La fin, il a voulu révéler la fin. Veistalka mimenu shrina, la présence de Dieu l'a quitté. Et il s'est mis à parler d'autre chose. En fait, il les a bénis. En les bénissant, en secrètement, il y a dans les bénédictions l'identification de chacun, et donc le secret de l'histoire de chacune de ces tribus, fondée par ses enfants, et donc aussi l'allusion aux conditions de la fin de l'exil. Mais la prophétie dévoilée s'est cachée. Jacob n'a pas pu dévoiler la fin de l'exil à ses enfants. Parce que dans la dimension de Jacob, il n'y a pas de fin d'exil. C'est simple. Dans la dimension Jacob, il n'y a pas de fin d'exil. La fin d'exil, c'est grâce à Isaac qu'on l'a. Et la fin d'exil, c'est Israël. C'est quand Jacob redevient Israël. Alors essayez. Si au moins on a compris cela ce soir, d'identifier cela. Le courage terrible qu'il faut pour ces juifs pieux de l'exil, qui fonctionnent comme Jacob, c'est-à-dire les juifs de Joseph, au service de l'exil, et qui en fin de compte décident quand même de finir leur vie en prenant leur retraite. C'est le flambeau de la retraite au flambeau, à Bnei Brak. Au moins à Bnei Brak, parce qu'ils ne peuvent plus supporter la rue pavée. Bon, au moins à Bnei Brak. Mais ce n'est pas en Israël, okay, c'est extraterritorial. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils sont conditionnés par l'identité Jacob. Il n'y a pas de fait de l'exil. Et moi, je crois qu'ils sont braques. Mais enfin, ça vient de ce qu'ils sont braqués. Attendez, une minute avant de répondre à votre question, une extrémiste. Oui, je sais, c'est l'heure. Et enfin, on verra la prochaine fois. Rendez-vous la prochaine fois. Je sais qu'il faut que tu prennes le quart, mais enfin, ça fera un demi. En tout cas, Oui, c'est l'espèce de conditionnement de Jacob. Et je vais terminer sur une note un peu énorme, mais d'abord, avant cela, in extremis, votre question, puisque vous avez levé le...
Il n'y a pas de contradiction sur le plan psychologique d'Israël. Jacob, il est Israël, mais quand il est arrivé sur la terre, il est aussi Israël.
Non, quand Joseph et Judas sont ensemble. Ça veut dire que si Jacob était capable d'avoir aussi la capacité de Esav, mais comme tzadik, alors il s'appelle Israël. C'est quand Jacob est capable d'être aussi Esav qu'il s'appelle Israël. Je vais répondre d'une manière. Eret Israël était dans l'héritage d'Ésaü. C'est pour ça d'ailleurs les chrétiens réclament ce pays. Et parce qu'Eret Israël, c'est les enfants de Léa. Et Léa est devenue la femme de Jacob. Mais la femme préférée de Jacob, c'est Rachel, qui, elle, est la femme de l'exil. Sur le chemin de l'exil. On reprendra ça d'ailleurs. C'est-à-dire pour Jacob, c'est difficile d'être israélien. Dès qu'il est israélien, alors il s'appelle Israël. Voilà. Et vous avez remarqué que les juifs de ghetto, de type Jacob, de quoi ils accusent les Israéliens? C'est d'être Ésaü. J'ai remarqué ça. Exactement, dans votre question. J'ai remarqué. Je vous dirais que, en relation avec les événements actuels que nous vivons, il y a un revirement chez ce genre de juifs. Enfin, une grande partie des juifs haredim qui étaient contre l'État d'Israël sont en train de changer d'avis pour sauver l'État d'Israël. Bon, ça, je vous en parlerai dans les prochains cours. Ça a l'air paradoxal, je suis en train de vous dire. Nous avons énormément d'indices qu'il y a un revirement chez eux, parce qu'ils sont très inquiets de l'avenir, puisque le gouvernement actuel veut précisément abandonner tout ce qui fait l'héritage biblique d'Israël. Shrem, Hebron, Yericho, si j'ose dire, vous voyez, ça, c'est l'histoire de Jacob. Jacob qui découvre que c'est Ishmaël qui va prendre le pays. Alors il prend le courage de devenir Israël. Jusque-là, je vais dire ça pour les hébraïsants. Yaakov et Solea al Yericho. Vous avez remarqué le verset que... voilà donc, je finis sur ce verset. Et je reprendrai, rappelez-moi la prochaine fois de reprendre l'identité de Joseph. Non, mais il n'y a plus de temps.
La fois prochaine, tu veux répondre à ma question.
Oui, d'accord. Le verset, c'est Anochi et Imar. Dieu dit à Jacob, je descendrai avec toi, c'est le temps où il faut descendre, mais je remonterai avec toi. Vous voyez, ces deux fonctions, c'est très difficile pour la même personne de les vivre à la fois. Peut-être qu'il y a une génération privilégiée de juifs qui font encore partie du temps de la diaspora, mais déjà partie du temps d'Israël, et qui se trouvent comme ça, un peu à l'aise, et là. Mais c'est très rare. On est où là, et ceux qui sont là ne sont que là, ceux qui sont là-bas ne sont que là-bas, et alors, ils n'arrivent plus à se comprendre. En fait, c'était le thème du début de l'étude de ce soir. C'est clair, c'est suffisamment clair. Voilà, tu nous as aidé avec ta question à éclaircir ça. Quand Jacob est Jacob, il n'est que Jacob. Donc, il n'y a aucun mystère à voir qui s'installe finalement n'importe où. En appelant ça n'importe où, la petite Jérusalem. Quand il était à Vilna, c'était Jérusalem. Quand il était à Clemson, c'était Jérusalem. Il est à Brooklyn, c'est Jérusalem. Et Jérusalem, ah, le Messie. Vous voyez que subitement, on devient fou. Le délire. Okay, je ne sais pas si c'est clair. Voilà, eh bien, alors on se revoit la semaine prochaine. Bonne Afghana.